Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Si j'ai agi ainsi vis-à-vis de mes parents, c'est que depuis 6 ans, mon père abusait de moi. S'est défendu Violette Nozière face au policier qui l'interroge pour la première fois. L'inceste d'un père sur sa fille. Ce serait donc pour cela que Violette Nozière, 18 ans, a, un jour d'août 1933, fait boire à ses parents de fortes doses de Semenal, un puissant somnifère. Son objectif, les faire disparaître de sa vie. Un parricide, ni plus ni moins. Car d'après Violette, son père, Baptiste Nozière, l'aurait régulièrement violée durant son adolescence. La jeune femme n'a pas cherché à échapper à la justice. En revanche, elle a toujours soutenu bec et ongles qu'elle avait voulu punir son père des actes ignobles qu'il lui aurait infligés. Voici une partie de sa déclaration. « Mon père, quand j'avais 12 ans, m'a d'abord embrassé sur la bouche, puis il m'a fait des attouchements avec le doigt et enfin il m'a prise dans la chambre à coucher et en l'absence de ma mère. Ensuite, nous avons eu des relations dans une cabane du petit jardin que nous possédions près de la porte de Charenton, à intervalles variables, mais environ une fois par semaine. Si le procès avait lieu aujourd'hui, ces accusations seraient prises très au sérieux et la police ne balayerait pas d'un revers de la main ces ignobles histoires de famille. Mais dans les années 30 en France, la société est encore corsetée dans une idéologie patriarcale. Le chef de famille, c'est le père. Il a tous les droits sur sa femme et ses enfants. Le tuer, comme l'a fait Violette Nozière, c'est le pire des crimes, peu importe les raisons. Alors inceste ou pas, mensonge ou vérité, Violette, l'ange noir, le monstre en jupon, comme la surnomment les journaux, doit payer. Et au prix fort. Le procès qui se tient à la cour d'assises est expédié en 2 jours et demi. 1 heure de délibéré, le juré, composé exclusivement d'hommes, la déclare coupable. Le juge prononce alors la peine. La parricide sera conduite à l'échafaud pieds nus, en chemise, un voile noir recouvrant sa tête. Violette demande aussitôt la grâce qui lui est accordée le 24 décembre 1934. Depuis 1887, plus une femme n'a été guillotinée en France. Sa peine est alors commuée en travaux forcés à perpétuité. 8 ans plus tard, en août 1942, le maréchal Pétain réduit sa peine à 12 ans avec interdiction de séjourner en France pendant 20 ans. En prison, Violette se montre exemplaire. Elle est libérée en août 1945. Le général de Gaulle lève son interdiction de séjour la même année et en 1963, la cour d'appel de Rouen la réhabilite. C'est la première fois qu'un prisonnier de droit commun condamné à la peine capitale est blanchi. Pourquoi la France décide-t-elle de laver l'honneur de cette condamnée à mort? Violette Nozière est-elle coupable? Ou est-elle victime? Ou est-elle mythomane? Lorsqu'elle naît en 1915 à Neuvy-sur-Loire dans la Nièvre, rien ne prédestine la petite Violette à mentir effrontément et encore moins à commettre un parricide 18 ans plus tard. Enfant affectueuse, élève modèle, elle obtient son certificat d'études à 12 ans, mais au même moment, elle multiplie les soucis de santé. Maux d'estomac, appendicite, faiblesse générale, elle est déscolarisée et part vivre chez sa grand-mère à Neuvy. À 13 ans, elle en paraît déjà 16. Violette flirte avec les garçons de la région ou avec les Parisiens en vacances. L'été, elle participe aux fêtes de village, rentre à minuit, fait mine de se coucher et ressort en catimini 5 minutes plus tard. Ces petits mensonges laisseront place à de plus importants au fil des années. Revenue à Paris, l'adolescente donne dans la prostitution et pose même nue pour un magazine. Certaines annotations dans ses bulletins y feraient directement allusion. Bonne tenue en classe, mais à surveiller au dehors. Conduite douteuse. Violette doit redoubler d'imagination et de duplicité pour tromper ses parents. Elle intercepte les mots envoyés par son lycée à propos de ses absences répétées. Et quand l'une des lettres échappe à sa vigilance et que ses parents la découvrent, la jeune fille n'hésite pas à dire qu'elle est victime d'un complot, que son professeur de mathématiques l'a prise en grippe et a monté tout le monde contre elle, y compris le directeur de l'école. Ses parents la retirent alors du lycée Fénelon et lui font prendre des cours par correspondance. Assignée à résidence, elle ne sort plus beaucoup, seulement pour se rendre à l'hôpital, car l'un de ses nombreux prétendants lui aurait transmis la syphilis. Mais rien ne semble arrêter Violette. Elle continue de mener grand train, boulmiche, boulevard Saint-Michel. Elle passe une grande partie de son temps dans les cafés du quartier latin, s'invente une vie auprès de ses amis, elle ment sur son statut social. Son père serait ingénieur, sa mère première main chez le célèbre couturier Paquin. Mais en 1933, tout s'accélère. Violette tombe folle amoureuse d'un étudiant en droit, Jean Dabin. À lui aussi, elle fait croire qu'elle est riche héritière et volerait régulièrement de l'argent à ses parents. Selon la police, ce serait la raison de sa tentative de meurtre. Jean Dabin et elle veulent pouvoir vivre aisément et Violette aurait donc planifié l'assassinat de ses propres parents pour toucher les 165 000 francs d'héritage. C'est là que réside tout l'enjeu du procès. Violette a-t-elle tué son père et tenté d'assassiner sa mère uniquement pour des raisons pécuniaires ? Ou a-t-elle voulu se libérer définitivement de l'emprise mentale et sexuelle que son géniteur aurait sur elle ? L'opinion publique se déchire. Pire, des professionnels se montrent très virulents envers l'accusé, comme ce psychiatre qui, dans le journal François, dit de Violette qu'elle, je cite, « aurait été inconsciemment attirée par son père et aujourd'hui elle l'accuserait d'un acte qu'il n'a jamais commis, mais qu'elle souhaitait involontairement dans le plus profond de son être ». À la barre, lors du procès, des voisins affirment que l'attitude du père envers sa fille était normale. Ses collègues confirment que Baptiste Nozière était un père irréprochable. Le médecin se retranche dans le secret professionnel. Le policier qui a recueilli les confidences de Violette n'est quant à lui pas interrogé. En résumé, l'inceste est survolé. On ne saura jamais si Violette a dit vrai. Seule certitude, père, mère et fille ont l'éternité pour régler leurs comptes dans un huis clos ironique. En 1966, Violette Nozière meurt d'un cancer. Elle est enterrée dans le caveau familial de Neuvy-sur-Loire, entre son père et sa mère.
Europe 1, historiquement vôtre.